D'abord, je vous signale la présence d'étudiants supplémentaires, puisque le frère Joël Pralon, ici présent, qui est le supérieur du séminaire en fait, de Sion. Il y a un endroit, il y a une maison des séminaires, il y a le séminaire de Fribourg et le séminaire de Sion là-bas. Le supérieur du séminaire de Fribourg, vous l'avez déjà rencontré, je crois, ce matin, non? Vous avez eu cours avec le père Nicolas Glasson?
Ouais.
Donc voilà, donc là vous avez celui de Sion qui est avec nous. Comme ça vous avez la totalité de la Suisse romande, voilà, les deux diocèses, disons. Et il est accompagné des, on doit dire, propédeutiques, discernants, d'accord. Voilà, sept discernants, donc c'est l'année, c'est ça, avant de rentrer effectivement au séminaire, mais ils sont déjà, vous avez déjà au séminaire, c'est ça. Voilà, sept discernants que vous aurez donc l'occasion de rencontrer, de connaître, en tout cas de voir tous les lundis pour assister à ce cours avec vous. Je me réjouis beaucoup de ça parce que c'est une nouveauté d'avoir un cours en lien avec le séminaire. On a le père Nicolas Glasson qui a enseigné ici, puis avant le prédécesseur du père Joël Pradon, le père Pierre-Yves Maillard, qui est devenu après vicaire général à Sion, donc il a dû quitter ses fonctions ici. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait ce lien avec le séminaire. Alors, nous commençons aujourd'hui, il manque, est-ce qu'il y a des feuilles encore? Je crois qu'il en reste encore pas mal. Hein. Oui? Voilà, allons vous arriver. Nous commençons aujourd'hui donc un cours de philosophie morale. Immédiatement, lorsqu'on se propose de faire un tel cours, on est nécessairement embarrassé. Dans la mesure même où on est dans une discipline où celui même qui en parle est mis en porte-à-faux. D'abord parce qu'on attendra de lui, peut-être qu'il ait une vie morale, mais on pourra aussi s'interroger sur sa capacité à donner des leçons de morale aux autres. C'est pour cela que la leçon introductive va porter précisément sur cette situation-là, non pas, bien sûr, suis-je, moi, en mesure personnellement, Fabrice Adjage, avec la vie que je mène, d'assumer un tel cours, mais plutôt de savoir des enjeux plus généraux, enfin d'aborder des enjeux plus généraux, sur la possibilité même d'un cours de philosophie morale. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Que peut-on attendre d'un cours de philosophie morale? Et aussi, quelles sont finalement ses limites par rapport à la vie morale? Je dis cela entre parenthèses parce que vous le savez bien, il y a des gens qui mènent une vie morale et même une vie sainte et qui n'ont jamais assisté à des cours de philosophie morale. Et inversement, il y a des professeurs qui sont des grands spécialistes de la philosophie morale, imaginez des spécialistes de Kant, dont la vie, ou plutôt dont les étudiants mènent une vie, pas dire immorale, mais enfin en tout cas discutable. Donc, il y a cet écart assez évident. Pourquoi faire de la philosophie morale? Est-ce que c'est nécessaire? Et qu'est-ce qu'on doit en attendre? Alors, la première remarque que je voulais vous faire, c'est j'ai mis en exergue une parole d'un de mes auteurs favoris, vous savez, Nietzsche, qui se proposait d'écrire un livre qui s'intitulait L'immoraliste. Chose que fera d'ailleurs André Gide, sans doute avec moins de bonheur que Nietzsche, s'il l'eût fait. Mais Nietzsche, d'emblée, dans une note, dans un projet pour un, pour un livre, une sous-partie de la volonté de puissance, il dit, voilà, l'immoraliste critique de l'espèce d'ignorance la plus néfaste, la morale. La morale peut apparaître comme une ignorance comme telle. D'abord parce que, vous voyez, on pourrait reprocher à la personne qui du fait de la morale, justement, d'être déjà dans une posture critique. Celui qui fait de la morale, vous savez, c'est celui qui cherche à voir les pailles qui sont dans les yeux d'autrui. Ou même, on pourrait dire, qui n'est plus dans cette question de la paille et de la poutre, la question classique, mais qui au moins est encore dans une relation où c'est moi et l'autre. Mais dans un domaine, si vous voulez, tellement général où il ne s'agit même plus de moi et l'autre. Si vous voulez, on va parler de paille et de poutre, mais il n'y a plus Dieu. Enfin, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus Dieu. On est dans la généralité. Et une généralité telle qu'elle passe à côté de l'individualité, finalement. C'est-à-dire, soit, on est dans cette situation-là, soit je vous fais la morale, je dis, bon, voilà, les rimes, maintenant, c'est fini, la déconnade, il faut vraiment passer à autre chose. Là. Mais je suis dans la critique individuelle. Et là, je suis dans celui qui cherche la paille dans les autres. Ou alors, je suis dans un propos qui est tellement général et impersonnel que finalement, je passe même à côté de l'individualité, qui est l'enjeu fondamental de la morale. Vous voyez, c'est déjà un vrai problème. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que, systématiquement, la morale échoue parce qu'elle propose d'imposer quelque chose à quelqu'un au lieu de le laisser se déployer à partir de ce qu'il est lui-même. On va dire ça. Donc, il ne faut pas faire de morale. On va dire ça. Il ne faut pas faire de morale. Ah bah la morale, ni Dieu ni maître. Bon, anarchiste assez élémentaire, auquel mes amis ajoutaient, mais si on ajoute ni maîtresse, c'est quand même malheureux. C'est quand même une posture qui est assez fréquente, vous voyez, notamment les post-nichéens, je veux pas faire des injections de moraline, c'est une expression de Nietzsche pour moraline. Nous injecte encore de la moraline, c'est lourd. Ou encore, j'ai vu des situations sur les plateaux de la télévision, la radio. Une fois, j'ai participé, on m'avait invité à une émission qui s'appelait Du grain à moudre, qui était sur France Culture, dirigée par Brice Couturier à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi on m'invitait à cette émission. D'ailleurs, c'était une émission sur les dérives hyper violentes de la pornographie. C'était une émotion spécialement dévolue à la notion de gang ou banlieue. Alors, je vous avoue, quand on m'a proposé ça, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je me suis renseigné rapidement, savoir ce que ça voulait dire. Et donc, j'ai parlé dans cette émission. Mais ce qui était magnifique dans cette émission, c'est parce qu'il s'agissait de pornographie, c'est que tout le monde se défendait de faire de la morale. Et c'est cette situation classique. Non, mais moi, surtout, je ne fais pas de morale. Hein. Je suis juste en train de dire que on a peur de faire de la morale. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette situation-là? C'est qu'on en fait, bien sûr. Surtout, ne faites pas de morale. Mais c'est encore un impératif. Il ne faut pas faire de la morale, c'est encore un impératif. Et même, on voyait bien qu'il y avait une sorte de climat de terreur dans ce petit milieu, vous voyez, bobo parisien, du type surtout je ne fais pas de morale, attention, vous voyez, ils étaient terrorisés à l'idée qu'on puisse supposer qu'ils fassent de la morale. Ça supposait qu'ils étaient sous le coup d'un moralisme inversé, un moralisme qui ne disait pas son nom, qui était honteux de lui-même. Oui, une différence d'ailleurs entre la morale et le moralisme.
Oui, en se défendant de faire de la morale, en fait, il tombait dans une sorte de moralisme négatif, terrorisant. Et ça, c'était biblique. Hein. Les gens qui s'opposent à toute morale sont souvent des terroristes. Ces gens vivaient dans une sorte de climat de terreur mondaine, vous voyez. Je ne fais pas de morale, voilà. Il ne faut surtout pas qu'on me prenne en flagrant déni de morale, de moralisation. Mais ça a été le cas chez les anarchistes. C'est la personne qui vous dit ni Dieu ni maître. Elle nous fait encore une morale massive. Tu ne dois pas avoir de Dieu ni de maître. Il est encore dans une morale. Donc il dit n'écoute personne, écoute-moi.
C'est un problème.
On ne peut pas sortir, dès qu'on s'adresse à quelqu'un, de la dimension de l'écoute, et même d'une dimension qui est, au fond, morale. On ne peut pas y échapper. Mais eux feignent d'y échapper. Et alors, comme ils sont persuadés de ne pas faire de morale et de ne rien imposer aux autres, ils deviennent des tyrans. Et quand vous faites de la morale et que vous êtes conscient d'en faire, vous essayez de vous limiter vous-même. Je fais attention, je suis en train de te dire un truc, fais ceci, mais enfin, quand même, je me rends compte que je suis en train de faire de la morale. Mais si j'ai l'impression de n'en appeler qu'à la liberté individuelle, à la liberté de chacun, au libre esprit, à la libre pensée, etc., je vais avoir une sorte d'affirmation extrêmement tranchante, mais sans limite, parce que je ne me rends pas compte que je suis en train aussi d'être sur le mode impératif. Donc, je n'échappe pas à la dimension impérative, de toute façon. Sachant d'ailleurs que, quand je vous disais cette dimension impérative, soit je dis il ne faut pas faire de morale, j'en fais encore, mais même de m'adresser à quelqu'un, de parler avec quelqu'un, fait que je lui dis, au fond, alors est-ce que c'est un impératif de prière toujours plus ou moins. Et je dois être conscient que cette dimension-là, elle fait partie de l'existence. Donc, premier point que je voulais mentionner, on ne peut pas échapper à la morale. On ne peut pas échapper à la morale et dire qu'il ne faut pas faire de la morale sans en faire encore. Et se dire anarchiste ni Dieu ni maître à la fin, vous savez, ça a été dans les grandes années de l'anarchisme au début du XXe siècle, il y avait des attentats anarchistes. Il y avait un vrai terrorisme anarchiste. C'est un anarchisme assez cohérent dans sa contradiction intrinsèque, c'est-à-dire voilà, nous n'avons pas de principe, mais enfin ça c'est un principe. Et maintenant, si vous nous écoutez pas, vous comprenez pas, on est là pour vous libérer. Ah bon, beaucoup. Oui, parce que le pire de tous, c'est les présidents qui prétendent vous libérer. Donc, on est là pour vous libérer, on vous impose rien, si tu nous écoutes pas, c'est que t'as rien compris. Donc, je peux poser des mots. C'est sourd, c'est un creuset des tympans. Ah, ça, c'est le problème. Donc, on n'échappe pas à la morale. Et quand on prétend y échapper, on tombe dans la terreur. Une terreur soit explicite, comme celle de la grande époque de l'anarchisme terroriste, soit cette sorte de terreur soft, complètement intériorisée en fait, qu'il y a dans certains milieux, vous voyez, on ne cesse de se défendre, de faire de la mort. Donc on échappe pas. On en fait toujours. Maintenant, la question qui se pose, c'est une autre objection. Bon, on va en faire, mais quelle est finalement son efficacité? Par contre, vous dire, on fait toujours la morale, mais de toute façon, c'est vain, ça n'aboutit à rien. On n'y échappe pas, mais on est tellement différent, il y a une telle différence de mœurs d'un temps à l'autre, d'un lieu à l'autre, que on pourrait avoir une sorte de relativisme moral. C'est d'ailleurs une position qui est très courante aujourd'hui. On est dans une certaine forme d'absolutisme scientifique, c'est-à-dire la vérité scientifique est une vérité démontrée, démonstrative, Et de l'autre côté, quand il s'agit de la morale, il n'y a plus de vérité. Chacun a ses mœurs selon sa coutume et selon aussi son itinéraire personnel. Donc, après avoir, en introduction, dit que de toute façon, on faisait toujours de la morale, la question c'est est-ce qu'on peut faire une morale philosophique, c'est-à-dire une morale qui a un caractère vraiment universel, ou est-ce que cette morale philosophique doit se réduire au constat du relativisme? Donc, notez qu'on peut ne pas être relativiste en science, mais être relativiste en morale, éventuellement. Surtout quand les sciences sont les sciences dites de la nature, ou les sciences exactes, où finalement on ne s'intéresse pas à l'humain, et comme on pense que tous les critères de validité sont des critères de validité liés à des phénomènes reproductibles, donc liés à des conditions expérimentales, de laboratoire, forcément, comme notre vie morale et que notre humanité est prise dans des situations beaucoup plus compliquées que ça, on se dit, bah là, c'est pas possible, il n'y a pas de vérité. C'est complètement relatif, lié à des circonstances, à des individualités différentes. Alors, cette idée-là, la première chose, c'est qu'on pourrait croire que cette idée est une idée tout à fait postmoderne. Je dis bien postmoderne, parce que la modernité n'a jamais été contre la morale. Elle est au contraire une époque très morale. Je vous rappelle que la Révolution française s'est faite avec des tribuns qui ne cessaient d'en appeler à la vertu. La vertu est le grand thème révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est un cas encore où vous allez voir, d'ailleurs, là, il y a un lien entre l'anti-morale et la terreur, mais la vertu et la terreur. On va voir ce qu'appelle à la vertu pour tous. Je vous prends cette phrase, par exemple, de Saint-Just. Vous connaissez Saint-Just, hein, c'est un peu le Rimbaud de la terreur révolutionnaire. Il meurt très jeune, et lui-même, il finit. Comme toujours, hein, parce que vous savez, le principe de la Révolution française, la période de la terreur, c'est que c'est l'autodestruction des élites. Les élites elles-mêmes sont décapitées au fur et à mesure. Ceux-mêmes qui ont appelé à la purification ou à la pureté, vous voyez, eux-mêmes sont pris dans la machine révolutionnaire. Et alors Saint-Just, qui a cette phrase très célèbre, vous savez, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ça, c'est une phrase typique de Saint-Just. Ça, c'est en général. Avec, vous savez, cette phrase, vous voyez ce slogan de mai 68, il est interdit d'interdire. Enfin, vous voyez, on voit bien ici, là, ce que je disais, le fait qu'on est toujours pris dans la morale qu'on le veut ou non. Le pire de tous, bien sûr, étant l'impératif, vous savez, jouissez sans entrave. C'est terrible. Parce que ça apparaît comme la libération, mais c'est encore un impératif. Jacques Lacan dit que c'est le pire des impératifs. Que c'est le plus violent, le plus écrasant, le plus tyrannique. Jouissez. Imaginez, si je vais vers Paul, par exemple, qui est devant moi, et que je lui dis, maintenant, tu dois balayer le couloir. Oui. Elle n'a pas envie, mais je donne cette obligation, c'est un impératif, tu dois balayer. Maintenant, si je viens vers Paul et je lui dis, maintenant, tu dois jouir. Vous voyez la violence? C'est horrible. Bah quoi, Paul? Eh? C'est terrible. Terrible. Et derrière ça, vous voyez, derrière le côté libertaire 68A, vous avez encore cette terreur. Terrible. Alors, Saint-Just dit, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, vous voyez ce que ça veut dire. Mais il a aussi cette chose, il disait, la monarchie censurait les ridicules, la république censure les vices. La monarchie, c'est le règne de Molière, si vous voulez, voilà, on se moque de l'avare, du faux dévot, hein, d'Artus. On se moque des ridicules, on les censure, hein, on est dans cette logique, on dénonce les ridicules. Mais la république, c'est le lieu de la vertu. Et la République se présentait vraiment comme le lieu de la vertu. Donc, et il y avait cette idée d'une morale, et l'enseignement était, l'enseignement en Troisième République, par exemple, hein, est complètement pris, si vous regardez Ferdinand Buisson, etc., par une morale civique extrêmement sévère, et des hussards de la République. C'est pas du tout, c'est contre une certaine morale chrétienne, mais c'est pas contre la morale. Et même les philosophes des Lumières, si vous regardez Diderot, si vous regardez Rousseau, Rousseau est un grand moralisateur. Donc il y a toujours l'idée qu'il y a une nature humaine et qu'on va l'appliquer d'une certaine façon universellement. D'où d'ailleurs la gauche française, hein, les radicaux socialistes sont ceux qui vont lancer la colonisation, parce qu'ils portaient le fardeau, vous voyez, de la mission civilisatrice, moralisatrice de l'homme blanc. La colonisation était conçue comme une entreprise morale, de moralisation. Donc, on pourrait penser que ça n'est qu'aujourd'hui qu'on a découvert qu'il y avait une sorte de relativité des mœurs, que l'Église nous a enseigné une morale universelle, qu'après la modernité aussi universaliste nous a présenté une morale non plus fondée sur la foi, mais fondée sur la raison, sur la nature. Et dès lors, aujourd'hui, grâce à la rencontre des peuples, grâce au brassage, grâce aux migrations, grâce à la globalisation, tout d'un coup nous découvrons que nous avons des mœurs différentes, que par exemple les musulmans sont polygames, alors ça c'est le signe de notre ignorance totale. Vous savez, cette sorte de chauvinisme temporel qu'on a. Ce n'est pas simplement le chauvinisme par rapport au lieu, la chauvinisme par rapport au temps, c'est le pire de tous. Notre époque serait une époque d'un coup de lucidité, alors que dans le passé, vous voyez, on était tous étaient des indécis. Vous n'avez rien vu. Alors, la relativité des mœurs, c'est ce qu'on trouve dans tous les textes de l'Antiquité. C'est un texte, c'est un lieu commun de l'Antiquité. Ne cessez de dire que, selon les peuples, selon les temps, les mœurs étaient différentes. C'est un lieu commun que vous trouverez chez tous les grands auteurs de l'Antiquité. Alors, je vous ai lu un texte d'un sceptique, Pyrrhon, le père du scepticisme, texte qui est rapporté par Diogène Laërce dans sa vie des philosophes illustres, un très très grand texte. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous regardez partout ailleurs, je prenais un exemple, l'histoire naturelle de Pline, Pline l'Ancien. L'histoire naturelle de Pline, chef-d'œuvre, qui va marquer toutes les études littéraires jusque très récemment, et qui notamment, je vous rappelle, Pline l'Ancien est une des lectures favorites de Saint François de Sales. Regardez Saint François de Sales, pour essayer de parler de la vie spirituelle, cherche toujours des comparaisons avec les choses dans la nature, ou les phénomènes curieux de la nature. Et il s'appuyait toujours sur la lecture de l'histoire naturelle de Pline. Son but, ce n'était pas d'avoir une exactitude zoologique ou biologique, mais de voir dans certains phénomènes des choses qui parlaient de la vie spirituelle. Dans ce principe que si la nature est créée par Dieu, eh bien, elle nous parle, elle est une première parole de Dieu, et que je peux voir dans les phénomènes naturels, soit je les vois pour eux-mêmes, et donc je les vois en tant que, à travers la zoologie, par exemple, ou la botanique, soit je les vois en tant qu'ils sont aussi, nécessairement, parce qu'il y a des dieux, des symboles de la vie spirituelle. Par rapport à cette métaphysique dont je vous avais parlé, la métaphysique de la participation, qui fait que forcément, si tout est dans tout, et si le supérieur est dans l'inférieur par mode de participation, alors l'inférieur doit aussi pouvoir me parler de la vie spirituelle. Et si vous regardez tous les textes des grands mystiques, les grands mystiques ne cessent de prendre des phénomènes naturels pour essayer de parler de phénomènes spirituels, voire surnaturels. Ouais. Ils disent que c'est des métaphores. Alors dans Pline l'Ancien, vous avez un chapitre, par exemple, sur l'homme, enfin, un livre entier qui porte sur l'homme, Et Pline l'Ancien prend un malin plaisir à manifester des diversités de mœurs extrêmes, beaucoup plus extrêmes que tout ce qu'on peut imaginer. À tel point qu'il imagine des êtres fabuleux, des hommes qui n'ont pas de tête, par exemple, qui ne se nourrissent que de parfums, avec des mœurs, vous voyez, des plus délirantes possibles. Donc, ça, c'est typique de l'Antiquité. Ça n'est pas une découverte de notre époque, cette relativité. C'est au contraire, je dirais, c'est ce qu'on va voir, un point de départ. On n'a pas attendu, si vous voulez, les ethnologues pour découvrir ça. Et je voudrais aussi vous dire une chose, c'est à peu près l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'uniformisation extrême. C'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire, finalement, si les gens ont peur par rapport à la morale, souvent, leur réaction, c'est qu'ils sentent qu'on est dans un phénomène d'uniformisation globale, et donc de perte, peut-être, justement, de quelque chose qui serait, voilà, la vie, la culture, les coutumes d'un pays, d'un lieu. Mais notre monde n'est pas du tout le monde du relativisme. Au fond, dans sa trame, si vous voulez, techno-économique, c'est au contraire une sorte de charge de plomb qui s'abat sur le monde et tout devient pareil. On n'a jamais été dans un monde plus normé qu'aujourd'hui. Donc, la relativité, le sens de la relativité, les anciens, m'est avis que les anciens l'avaient bien davantage que nous. Et alors même qu'ils avaient un sens de la relativité plus grand que nous, la plupart d'entre eux n'étaient pas relativistes. Il se peut en fait que le relativisme d'aujourd'hui soit une réaction de défense face à une uniformisation généraliste. Je vous lance cette thèse, hein. Est-ce qu'on a raison ou pas? Alors, voilà le texte de Diogène Laërce qui, lui, vous propose justement une relativité assez généralisée. Je vous ai pas mis tous les tropes, seulement ceux qui... Donc, c'est des figures, hein, des tropes, des tournures, qui posent le problème de qu'on ne peut pas arriver à une vérité universelle. La vérité pour tous. Voilà, donc c'est un texte de Piron, un sceptique, le père du scepticisme, qui montre que tout est relatif et que dès lors, comment peut-on parler du bien de manière sur un mode universel? Les difficultés que les sceptiques élèvent, c'est le premier texte, hein, relativement à l'accord des apparences sensibles ou des notions, forment 10 tropes ou arguments dont l'objet est d'établir que le sujet et l'objet de la connaissance changent sans cesse. Voici ces 10 tropes telles que le propose Piron. Le premier concerne les différentes façons qu'ont les êtres vivants de considérer le plaisir et la douleur, le bien et le mal. Il résulte en effet que les êtres n'ont pas la même façon de se représenter les choses et que ces contradictions entraînent nécessairement le doute. Parmi les animaux, en effet, les uns naissent sans union d'un mâle et d'une femelle, par exemple ceux qui vivent dans le feu. On ne peut pas réfléchir un peu. Transposé, hein, bien sûr, on est dans la zoologie de l'époque. Ceux qui vivent dans le feu, je ne sais pas, les salamandres. Et particulièrement, voilà, d'autres naissent au contraire de la fécondation de la femelle par le mâle, comme les hommes et les autres animaux. Les éperviers ont la vue très perçante et les chiens ont l'odorat très fin. Il est donc logique de penser qu'à des sensations visuelles différentes correspondent aussi des représentations différentes. C'est ainsi que pour la chèvre, les feuilles sont une bonne nourriture et que les hommes les trouvent amères. Que la ciguë, qui pour l'homme est mortelle, est un bon aliment pour les cailles. Les cailles. Et que le porc mange le fumier que le cheval ne peut supporter. Alors, là, l'idée, c'est une relativité selon les espèces. Si je parle du bien, il est évident que le bien, par exemple, je l'avais dit au début d'année, du rosier, n'est pas le même que le bien de la jeune femme. Le rosier, pour qu'il fructifie, il est bon de le tailler de temps à autre. En revanche, trancher les membres d'une jeune femme pour qu'elle donne plus de fruits, c'est quelque chose d'assez inefficace. Donc, d'une espèce vivante à l'autre, que quand je parle du bien, je parle toujours au plus vaste, oui, du bien d'une espèce. D'accord ? Je peux métaphoriquement dire que je veux vivre comme un poisson dans l'eau, mais il est évident que si je vivais en permanence dans l'eau, n'ayant pas de branchies, je serais fort mal. Donc, le bien est déjà spécifique, au sens qu'il est propre à chaque espèce. Il ne peut pas être un bien complètement général. Première remarque. Deuxième chose, à l'intérieur de l'espèce humaine, il y a une diversité. Le second, vous voyez, donc il va aller du plus, vous voyez, il va aller de ce qu'il y a le plus d'extension à le moins d'extension. Donc, vous voyez, d'abord l'espèce, puis après, il va aller à l'intérieur de l'espèce aux différents individus hein, de la même espèce. Ici, l'espèce humaine. Donc, le second trope concerne les formes de la nature humaine et la diversité des tempéraments. Ainsi, Démophon, le maître d'hôtel d'Alexandre, avait chaud quand il était à l'ombre, froid quand il était au soleil. Bon, c'est pas courant, hein. Mais voilà, quelqu'un qui... Mais vous pouvez dire, ah ben normalement, bah, quand t'as froid, mets-toi au soleil, ça va te réchauffer. Voilà, ça c'est une phrase, on pourrait dire c'est un précepte universel. Eh ben non, vous dites Pierron, ça marche pas pour Démophon. Andron d'Argos voyageait dans le désert de Lydie sans avoir soif. Il y a plein de philanthropes, c'est vrai. Il y a les Cailles, il y a Lydie. Donc voilà, quelqu'un qui traverse le désert sans avoir soif. L'un trouve son... Alors après, c'est les orientations dans la vie. L'un trouve son plaisir dans la médecine, on trouvera ça chez Aristote aussi. L'autre dans l'agriculture, un troisième dans le commerce. On cherche à vous orienter. Est-ce que nous n'avons pas les mêmes orientations? Il y a des gens qui font des écoles de commerce. Non, mais non, c'est pas... Vous savez que moi, j'ai fait la section économique et financière de Sciences Po. La partie la plus commerciale. Hein. Donc, je vous comprends. Oui, oui, bien sûr. Mais on sent ça, ce qu'on se soigne. Donc, non, mais c'est pas ça, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, mais vous dites, l'école, la haute école de commerce, c'est... Mais non, vous parlez pour vous. Il y a des gens, il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment le bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas tous convoiter les grandes écoles, ça veut dire ça, parce que vous voyez, c'est tellement varié là aussi, hein, c'est que... Certaines personnes, pour qui c'est vraiment le bien. Mais d'autres, s'ils se tournent vers l'agriculture, c'est très bien aussi. Voilà. En gros, ce qui nuit aux uns sert aux autres, il faut donc douter. Remarquez qu'on est là en matière morale. Donc vous voyez, relativité ici, quand non pas à l'intérieur de la nature humaine, quant aux différentes individualités. Et dès lors, quand je vais parler du bien, est-ce que je parle du bien par rapport à ce que moi je considère comme bien et qui conforme à mon tempérament? Mais ça ne va pas être conforme au tempérament d'autrui. Ça, c'est un point qu'on peut relever. Alors, j'ai sauté le troisième, je ne sais plus pourquoi. Enfin, bon, il y a le quatrième. Très intéressant, celui-là. Parce que vous voyez, là, l'idée, c'est qu'on passe d'un individu à l'autre. C'est différent d'un individu à l'autre. Et il y avait chacun son bien selon son espèce, alors chacun selon son individualité. Alors là, c'est chacun selon les moments de la journée. Parce que le même individu change d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Le quatrième concerne le perpétuel changement des affections. Exemple, la santé, la maladie, le sommeil, la veille, la joie, la tristesse, la jeunesse, la vieillesse, le courage, la peur, le besoin, la richesse, la haine, l'amitié, le chaud, le froid, la respiration, l'expiration.
C'est pas pareil quand vous respirez, quand vous expirez. Vous voyez pas le monde de la même manière.
Mais juste cette remarque, trop souvent passée sous silence par beaucoup de philosophes, mais qui est fondamental, le changement de nos affections, par exemple en fonction des âges de la vie. Et quand vous étiez petit, bien vous aimiez certaines musiques et certains films à la télé. Voilà. Si on vous les propose aujourd'hui, à haute dose, c'est-à-dire si on exauce le rêve de votre enfance, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est simple, hein. Mais alors, ça peut se passer dans un cycle très très court. Vous savez, quand vous aimez énormément une musique. Vous voyez ? Par exemple, Gaël, écoute le dernier album de Sia. C'est aussi un. Donc elle écoute, je ne sais pas moi, en boucle, le morceau qui s'intitule The Greatest. Prends-le bien. Elle aime trop ce morceau. À chaque fois qu'elle met ce morceau, elle se sent, elle a de l'énergie. Et donc, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Bon, ça veut dire qu'elle. Là, c'est déjà la relativité des individus. Pour apprécier cette musique, il faut avoir un tempérament spécial. Mais bon. Donc, on suppose qu'elle a le tempérament qui lui permet d'apprécier ce genre de musique. C'est-à-dire, elle n'a pas trop écouté de Mozart. Mais bon, ça lui plaît, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 semaines, ça décline. Et le morceau qui vous faisait tant de plaisir commence à vous écœurer. Et même, vous ne le passez plus. Et même l'idée de le repasser vous effraie. Bon. Bref, tout dépend. Si vous avez des problèmes de digestion, c'est très difficile d'apprécier une œuvre d'art. Si vous avez de la fièvre, je ne sais pas quelle maladie, la plus belle femme du monde peut passer devant vous, ça, voilà, vous préféreriez une aspirine. Donc, faites attention. La relativité n'est pas simplement... Ça, c'est déjà bien, ça, chez les sceptiques, c'est qu'il pousse la relativité beaucoup plus loin qu'on imagine. Et vous vous rendez compte que le relativisme va jusqu'à un relativisme, non pas entre les individus, mais interne à l'individu, de telle sorte que le sceptique pousse l'égarement jusque-là. Parce que si vous arrêtez à l'individu, c'est un peu facile, et vous tombez dans l'individualisme, moi j'ai ma vérité, etc. Mais si vous êtes plutôt dans une inquiétude qui est plus intéressante, qui dit, bon d'accord, chacun sa vérité, mais moi je dois t'avouer, j'ai une vérité le matin, une autre le midi, et une autre le soir. Ouf. Je sais pas comment faire avec ça, parce que et ça, c'est très embêtant. Mais ça, c'est vrai. C'est plus intéressant. Et déjà, on va plus loin. Donc, voilà, les choses nous paraissent en effet différentes selon que nous sommes dans des dispositions différentes quand nous les apercevons. D'ailleurs, pensez, c'est pas seulement des dispositions intérieures, ça peut être des dispositions extérieures. Si vous êtes couché ou debout, vous voyez pas la même chose. J'ai toujours ça, quand on me dit... une femme dont on dit qu'elle est très belle, c'est sous un certain angle, à une certaine distance, à certaines distances. Mais par exemple, si elle est à 1 km, franchement, différence. Ou alors, si vous la voyez de haut, vous avez un disque de poils avec les. Donc. Non, mais réfléchissez un peu. Donc là, il dit, c'est selon les dispositions. Ça, c'est vrai, la disposition spatiale a un rôle fondamental. Si vous êtes trop près, si vous êtes trop loin, ça va être bien. Vous pouvez revenir. Ah non, parce que eux, ils disent pas qu'il faut faire ceci ou cela. Non, ce serait déjà dogmatique. Non, parce qu'il n'y a pas de dogmatisme, justement. Ils vont pas vous dire, vous avez coupé les jambes. Jamais. C'est pas le problème d'un sceptique. Mais là, il faut entrer dans ces arguments, parce que ces arguments, pour l'instant, ne sont pas, on n'a rien à leur opposer. Hein. C'est d'abord un constat. Il faut d'abord remarquer qu'il s'agit d'un constat. Il ne faut pas tout de suite, vous voyez, tomber dans une posture de même. Il faut essayer de voir la part de constat qu'il y a. Et c'est ça ce que j'essaye de vous montrer. Hein. Ces arguments ne viennent pas de nulle part, et que l'Antiquité avait un sens de la relativité des jugements qui était sans doute beaucoup plus aigu que nous. C'est ça ce que j'essaie de dire. Pour vous montrer que quand l'Antiquité va commencer à parler d'éthique ou de morale, elle est très consciente de la relativité des mœurs. C'est pas comme si on avait des gens qui vivaient complètement de manière obtuse dans un monde fermé où tout le monde agit de la même manière. Non, on commence avec ça. Et ceux qui sont fous ne sont pas contre nature. En quoi le sont-ils plus que nous qui voyons le soleil comme un astre immobile ? Voyez encore, Thion de Tithoéra qui était somnambule et l'esclave de Périclès qui marchait sur le faîte des toits. Enfin, bref, là c'est sur les gens qui deviennent fous en plus. Alors, cinquième cas, là c'est sur les institutions. Ça c'est la partie la plus classique, hein, que c'est la seule, aujourd'hui c'est la seule qu'on met en avant, on met le relativisme individuel et le relativisme des mœurs d'un pays à l'autre. On met que ces deux choses en avant. Tout le reste, vous voyez, est aussi pris en considération par les sceptiques. Donc le cinquième concerne les institutions, les lois, les fables, les traités et les dogmes. On y fait rentrer des discussions sur le beau et le laid, le vrai et le faux, le bien et le mal, les dieux, la naissance et la mort, tous les phénomènes. Car ce qui paraît juste aux uns paraît laid aux autres, ce qui paraît bien aux uns paraît mal aux autres. Les Perses, en effet, ne trouvaient pas mal qu'on eût commercé avec sa fille. On eût commercé avec sa fille, c'est pas. C'est-à-dire, apparemment, là, il y a la thèse selon laquelle les Perses, il n'y aurait pas d'interdit de l'inceste chez les Perses. Bon. La réalité, c'est que s'il est vrai, c'est que les pharaons se mariaient entre eux. C'était logique. C'était des dieux. Vous êtes un dieu, vous êtes marié avec un autre dieu. Donc votre sœur, votre frère. Ça, c'est intéressant, hein. S'ils ne pouvaient pas se marier avec ceux qui étaient à l'extérieur, ce n'était pas des dieux. Après, l'idée qu'on est des dieux vous fait tomber dans l'inceste, ce qui est intéressant. Mais c'est ça les parents. C'était la famille Ptolémée, le mariage entre frère et sœur, c'est la chose la plus courante. Donc ça, c'est vrai, il y a cette chose-là. Les Grecs voyaient là, donc, dans l'inceste, un crime impie. Les Massagètes mettent les femmes en commun. Les Grecs, non. Les Cyliciens acceptent le vol. Les Grecs, non. Ouais. Ça, vous savez, ça, c'est chez les Gitans. C'est vrai. Le vol chez les Gitans n'apparaît pas comme un crime. Une gitane qui disait à sa fille, ma fille, que vraiment que Dieu te protège et qu'il te donne de voler beaucoup. Voilà, c'est ça. Ils volent. Ils sentent un petit truc, parce que j'ai une amie qui s'était fait voler par des visitants et elle avait une statue de la Vierge. Alors ils ont cette délicatesse parfois, c'est qu'ils tournent la statue de la Vierge face au mur. Pour pas qu'elle voie le vol. Oui. Je sais pas. Mais il y a cette idée un peu. Si vous voulez, ils le vivent un peu comme Robin des Bois, quoi. Nous, on a un mode de vie. Il y a des gens qui ont un autre mode de vie. Ces gens ont toujours une forme d'excédent. Donc on va, voilà. Ils n'arrivent pas à concevoir la gravité du vol. Ce qui crée des circonstances atténuantes, hein, c'est pour ça ce que je dis, hein, pour eux, c'est, il y a des choses, enfin, je disais pour eux, je dis pour certains gitans, en tout cas, moi, j'ai vu des personnes pour qui c'était une sorte de, avec une vraie naïveté, hein, il n'y a aucune perversité, hein, je veux dire, ça, non, je veux dire, en tout cas, une propre perversité délibérée. Tous les peuples ne croient pas au même Dieu, ça c'est un grand classique. Les uns croient à la Providence, les autres non. Les Égyptiens embaument leurs morts avant de les ensevelir. Alors là, le rapport aux morts, très différent. Les Égyptiens les embaument, c'est les momies, vous savez. Les Romains les brûlent, dans l'hindouisme aussi. Les gens de Péonie, je sais pas où c'est la Péonie, peut-être en Espagne, non ? C'est la Péonie. Non, je sais pas. Les jettent dans les fleuves. vous avez surtout, vous savez, les zoroastriens qui mettent les corps morts sur des, ce qu'ils appellent des tours du silence, et ils doivent être dévorés par les vautours. Et la chose qui apparaissait comme le pire pour un grec, être dévoré par les animaux, vous savez, mourir sans sépulture, c'est tout le drame d'Antigone, dans l'histoire de Polynice qui n'a pas de sépulture, et Antigone va vouloir donner une sépulture à son frère, sinon son âme va être errante. Parce que s'il est dévoré par les animaux, il ne pourra pas aller dans les enfers, et enfin, son âme ne sera pas libre. Alors là, au contraire, chez les Zoroastriens, on était dévoré par les oiseaux, c'était bien. Ça existe peut-être chez certains véganes. Non, mais c'est vrai, je pense. On devrait proposer, je pense, des funérailles véganes. On leur dit, bon, maintenant, vous n'allez pas manger d'animaux, mais laissez-vous manger par des animaux qui sont des prédateurs, des parasitoires, tout ça. Enfin, je sais pas. Voilà, alors... Vous voyez, dans ce texte, il y a vraiment une grande lucidité quant à la relativité des mœurs. Ça n'est pas une découverte pour nous, et quand nous avons l'air de découvrir cela, en fait, nous oublions que c'était une évidence pour l'homme de l'Antiquité, pour le philosophe de l'Antiquité. Et pourtant, ce sont ces philosophes qui nous ont légué des traités d'éthique ou des traités de morale. D'accord ? Pour l'instant, ces deux termes, je les prends comme équivalents. Juste une remarque, hein, éthique vient du grec, simplement, hein, éthos, comportement, et puis morale vient du latin. Donc des mœurs. Alors vous voyez, entre les mœurs... Et l'éthos, il y a quelque chose qui est analogue. Sauf que, diront hein, ceux qui veulent aller plus loin et puis qui pensent que les Grecs sont très supérieurs aux Latins, à savoir généralement des philosophes allemands, c'est qu'ils vous diront, oui, mais dans éthos, il y a le fait d'habiter. L'essentiel de l'éthos, de l'éthique, c'est comment habiter le monde, comment habiter l'existence. Ça pour l'architecte, et question d'habiter, c'est la question de l'éthique comme telle qui arrive de guerre.